Bonjour chers auditeurs, bienvenue au Mardi de la mémoire. Bonjour Alexandre Jivakov.
Bonjour madame.
Merci d'être de nouveau avec nous aujourd'hui.
Merci à vous de m'avoir à nouveau invité.
Une seconde partie de notre grande saga, même si c'est une saga dramatique, consacrée à Nicolas II et Raspoutine, puisque vous avez publié aux éditions Perrin « Nicolas II et Raspoutine, une histoire russe ». Dans la première partie de cette émission, vous nous avez expliqué combien cette histoire était profondément russe et peut-être exclusivement russe, en tout cas dans son déroulement et dans ses acteurs. Et nous avions quitté nos deux personnages dans une relation qui va s'avérer toxique, hein, à la fois pour eux deux et pour l'histoire de leur pays. Nous les avions quittés lorsque... Eh bien, ils commencent à se rencontrer, c'est-à-dire finalement assez tardivement, hein, puisque c'est en 1910. Hein.
Enfin, ils se rencontrent la première fois en 1905, mais ensuite, les choses vont évoluer. Et il faut effectivement, c'est à partir de la fin de la première décennie, donc vers 1910, puis obligatoirement dans les années donc, qui suivent, que les choses vont prendre un peu plus d'importance, avec des conséquences personnelles et surtout politiques majeur pour l'Empire russe et pour eux deux.
Alors, nous sommes aujourd'hui le 17 février et justement, le 17 février 1905, se déroule un événement majeur dans l'histoire des Romanov et dans l'histoire du pays, puisque les auditeurs voient bien que la date leur rappelle tout de même la révolution qui commence en Russie. C'est l'assassinat du grand-duc Serge Alexandrovitch, le propre oncle de Nicolas II. Alors, un assassinat... on va dire classique dans ce début du XXe siècle et cette fin du XIXe. Mmh. Hein, c'est la grande époque des assassinats politiques.
Oui, c'est un assassinat. C'est toujours un peu dommage de qualifier de classique, oui. Mais vous avez raison techniquement. Une bombe déchiquette, puisque je pense qu'il n'y a pas d'autre terme technique, pour dire l'état dans lequel le corps du grand-duc, qui était gouverneur de Moscou, a été retrouvé. C'est donc on touche directement à la famille Romanov, on touche à un des oncles les plus proches du tsar, et d'autant plus proche que le grand-duc Serge était l'époux de la sœur, d'une des sœurs de l'impératrice. Donc il y a un double lien, à la fois un oncle et un beau-frère. Voilà. Et donc ce grand-duc Serge était très très peu apprécié à Moscou, puisqu'il était effectivement... très, très autoritaire, très dur dans sa manière de faire. Et donc, c'était en quelque sorte pour les révolutionnaires une cible parfaite. Et donc, cette affaire a énormément de retentissements, à la fois pour la fille impériale, pour la famille impériale, puisque les risques de sécurité sont tels que les responsables de sécurité du tsar et de la famille impériale lui, en quelque sorte, interdisent de participer aux funérailles en disant « on ne peut pas vous assurer votre sécurité si vous y allez ». Ce qui est d'ailleurs donc quelque chose de quasiment traumatisant pour toute la famille impériale. Et il faut signaler la réaction donc, de la grande-duchesse Élisabeth, donc la femme, dorénavant la veuve de ce grand-duc Serge, qui se rend dans la cellule de l'assassin et qui essaie de comprendre pourquoi il a commis cet acte. Et donc, il y a un échange qui a lieu entre eux, qui a d'ailleurs fait l'objet d'une adaptation de Camus, très intéressante, qui a encore été donnée à Paris récemment. Et donc, cette grande-duchesse Élisabeth, qui ensuite, à partir de la disparition de son mari, va créer une sorte, non pas un ordre religieux, mais une espèce d'hospice où elle va recueillir des jeunes filles pour aider les pauvres de Moscou, et donc pour... en quelque sorte, essayer non pas de sortir sa vie de ce drame, mais en quelque sorte de trouver dans la seconde partie de sa vie une rédemption au travers de cette œuvre. Il faut ajouter peut-être que cette malheureuse grande-duchesse a été, bien sûr, victime du régime bolchevique, puisqu'elle a été non seulement exécutée, mais on l'a jetée dans une fosse où les gardes rouges l'ont bombardée de pierres jusqu'à ce que mort s'en suive. Voilà.
Et encore, on ne sait pas jusqu'à ce que mort s'en suive. C'est ce qui est terrible, je trouve, dans l'assassinat de cette femme. Alors, on sait que l'assassinat de sa sœur et de la famille de sa sœur ne sera pas non plus douce et tranquille, bien
c'est
au contraire.
Dire, oui.
Mais il me semble, hein, dans les récits que j'ai lus, qu'après, on continue à entendre des chants. Et ça n'est que... Parce que c'est en...
Ils sont. Elle est assassinée quasiment au même moment que la famille impériale.
Mais ça n'est qu'au mois d'octobre qu'on ramène son corps.
Absolument.
Et donc, en fait, on ne sait pas vraiment si elle est morte tout de suite ou
non,
pas.
Non, enfin, bon, on peut laisser penser que la mort s'est faite instantanément, mais en quelques instants ou en quelques minutes. En revanche, ce qui est peut-être intéressant, c'est que donc le cercueil a été récupéré par les troupes blanches au moment de la guerre civile, et que ce cercueil a ensuite fait un parcours très important, puisque c'est parti par la Sibérie, puis le cercueil a quitté ce qui était de la Russie pour se retrouver en Terre Sainte, avant que, à la suite de la disparition de l'URSS, on ramène le cercueil et qui est maintenant enterré donc, en Russie.
Ah oui, elle n'est plus dans l'église de Jérusalem.
Non.
Ah oui, d'accord.
Elle était ramenée en Russie.
Ah oui, dans la voilà, nécropole,
la nécropole
des
Romanov. Voilà.
Ah oui, très bien, Saint-Pétersbourg voilà. Alors. Parce que la mère du duc d'Édimbourg est dans cette église de Jérusalem.
Oui, exactement.
Ah oui. Oui, une église qui est assez facile à repérer avec ses bulbes Gethsémani.
Il y a quelques éléments caractéristiques des églises orthodoxes. Effectivement, c'est le cas de celle-ci en particulier.
Oui, c'est une femme, effectivement, qui a eu une vie compliquée. Alors, on n'est pas là pour parler d'Élisabeth, qui est donc une des sœurs aînées de l'impératrice Alexandra. Mais on est là pour parler de cette situation de 1905 et qui m'amène à vous poser une question. On ne sait peut-être pas au moment de la révolution de 1905 ce que Rasputin pense, mais on le saura après. Que pensait, comment a-t-il vu cet homme si paradoxal hein, comment a-t-il perçu, quelle était sa... Avait-il des opinions sur la mise en branle de ce qui allait devenir la révolution bolchevique?
En 1905, au moment donc cette révolution qui échoue, qui fait suite à la guerre russo-japonaise, j'allais dire que la conscience entre guillemets politique de Rasputin est encore dans une phase de formation, et il y a peu de témoignages d'expression de sa part ou d'opinion de sa part. Ce qui sera, la situation sera très différente ultérieurement. Notamment à partir au moment de la guerre de 14-18, où on sait, là, globalement, qu'il était hostile à la déclaration de la guerre parce qu'il considérait que c'était quelque chose d'assez dangereux pour l'Empire russe et qu'il considérait que le paysan n'avait rien à gagner à cette affaire-là. Voilà. Mais au moment, effectivement, de 1905, on n'a pas énormément de témoignages sur ce qu'il pensait. Voilà. En revanche, ce qui est clair, c'est que lui n'a pas... Il est naturellement pas révolutionnaire, mais il se rend compte néanmoins qu'il y a un certain nombre de sujets qui posent problème au régime de l'époque de la monarchie. Et donc, à sa manière, il essaie de faire passer le message qu'il faut faire bouger les choses. Il ne donne pas obligatoirement la direction, ni le dessin final de cette évolution, mais... Il est de ceux qui disent qu'il y a des sujets qui se posent, que le peuple n'est pas respecte le tsar, respecte la monarchie, mais il y a quand même des situations qui ne sont pas satisfaisantes et donc il faut essayer de faire bouger les choses.
Alors Alexandre Jevakov, dans votre ouvrage « Nicolas II et Rasputin, une histoire russe aux éditions Perrin », vous nous montrez que l'une des grandes surprises de cette relation entre Nicolas II et Rasputin, c'est avant tout la capacité qu'a eu Rasputin d'approcher le tsar dans une autocratie extrêmement fermée et encore plus à partir de 1905 où vous venez de l'expliquer avec l'assassinat du grand-duc Serge. il était, Nicolas II était encore plus entouré, sécurisé, etc. Ma question est, tout ce que l'on va savoir à partir de 1905 et de façon de beaucoup de plus en plus importante du fait des relations qui vont être de plus en plus fréquentes entre les deux hommes, tout ce que l'on sait, on le sait par quelle source, par quel biais?
Alors, il y a plusieurs sources. D'une part, Nicolas tient un journal quotidien dans lequel il note toutes les rencontres qu'il fait. Et donc, chaque fois qu'il voit Grigori Rasputin, soit chez lui, dans son bureau, soit dans l'appartement familial, soit chez l'une des personnes très très proches de l'impératrice, qui est la fameuse Anna Virubova. Donc, il note, nous avons vu quasiment de telle heure à telle heure Grigori, et nous avons parlé éventuellement, précise le thème de leur échange. Donc ça, c'est l'élément le plus fiable, puisqu'encore une fois, c'est la matière première, première source. Deuxièmement, la police politique, la CRAN, surveille, sauf pendant quelques périodes où elle reçoit instruction de ne pas le faire, elle surveille, soi-disant pour le protéger, Rasputin. Donc ça veut dire qu'elle le suit, ça veut dire qu'elle sait où il va, qui il rencontre, dans quelle bain douche il passe du bon temps avec, sans faire de parallèle avec d'autres personnages, donc il passe du bon temps avec telle ou telle personne identifiée comme prostituée, soit même dans l'escalier de sa maison, de son appartement. Donc il y a des policiers qui sont là, ou devant l'immeuble, et donc on sait exactement qui vient, à quelle heure, qui repart à quelle heure, quelle femme passe la nuit ou ne passe pas la nuit, etc. etc. Ça, c'est un deuxième élément d'information. Et vous avez ensuite un troisième élément d'information, qui sont les gens qui fonctionnellement sont proches du tsar, de la famille impériale ou de la cour, notamment les officiers de gendarmerie chargés de la sécurité, qui racontent donc dans leur mémoire un certain nombre d'épisodes concernant les contacts entre le tsar, la tsarine et Rasputin, que ce soit à Saint-Pétersbourg ou ailleurs. Par exemple, en 1913, il y a les grandes fêtes du tricentenaire de la dynastie Romanov, et donc il y a tout un tas de déplacements, et Rasputin fait partie des déplacements, et donc on sait là où il a été, là où il a pu rentrer aux endroits où normalement il n'avait pas sa place, là où il a été refusé, etc. De même, lorsque la famille impériale se déplace en Crimée, on sait normalement si Rasputin est là ou s'il n'est pas là. Après, sur ces informations, donc ces trois catégories d'informations, a priori, elles sont sûres. Et ensuite, il y a ce qu'on appellera aujourd'hui des fake news, répandues soit par les oppositions, soit par la presse, soit par des gens qui veulent donner l'impression qu'ils sont parfaitement au courant et qui expliquent qu'ils ont vu Rasputin là, ou qu'ils l'ont vu ailleurs, qu'il a fait ceci ou qu'il a fait cela. Donc, moi, je me suis surtout reposé sur les trois premières sources. J'ai parfois utilisé les sources moins fiables, non pas pour les utiliser comme éléments d'information, mais pour éléments de contexte, d'état d'esprit, où on voit bien que, y compris dans les milieux qui sont a priori monarchistes, a priori complètement proches de la cour et du régime, il y a des gens qui, parce qu'on aime bien montrer qu'on est au courant, qui donc se laissent à répandre des fausses informations. Vous savez que, je vous parlais de Anna Virubov, qui était donc une demoiselle d'honneur de la tsarine, et qui était prise en quelque sorte sous le patronage de la tsarine. Un peu comme pour Marie-Antoinette, il y a eu des libelles laissant entendre que les deux femmes avaient des relations sexuelles. Voilà. Ce qui est totalement faux. Mais il n'en reste pas moins que ce sont des rumeurs qui circulent et qui ne circulent pas à Genève, à Paris, dans les milieux anarchistes ou révolutionnaires, mais qui circulent dans les milieux, dans les salons de Saint-Pétersbourg ou dans les milieux dits bien informés de la cour. Donc là aussi, c'est intéressant de mon point de vue parce que ça montre qu'elle est un peu cet état d'esprit que j'appellerais un peu malsain, qui règne à ce moment-là à Saint-Pétersbourg.
Alors, puisque on a autant de détails et autant de notes policières, etc., j'imagine que Rasputin est décrit aussi. Et y a tellement eu de films, d'acteurs qui ont interprété Rasputin qu'on a du mal à imaginer comment était-il vraiment. C'était un homme grand, gros, petit
Il est pas. D'abord, quand on dit grand, voilà, il faut relativiser, puisque la taille moyenne à l'époque n'a rien à voir avec la taille moyenne contemporaine. Nicolas II, par exemple, faisait, disons maximum, 1m70. Voilà. Et donc, alors que son père, lui, était un géant, etc. Bon. Rasputin était à peu près de la taille de Nicolas II. Alors que c'est assez drôle, mais parfois, sur un certain nombre de sources contemporaines russes, on lui donne une taille de l'ordre de 1m80-90, ce qui est totalement faux. Donc, c'est un homme de taille moyenne. Un homme qui a une stature, j'allais dire, normale pour un paysan, c'est-à-dire qu'il est plutôt robuste et c'est pas une feuille de papier. Voilà, pour le reste, ce qui est intéressant, c'est comment à la fois il évolue en termes de vestimentaire et en termes de coiffure par rapport à ses premières apparitions. Donc il se polisse un peu, il devient un peu plus propre, il devient un peu plus attentif à ça, mais en même temps, il tient à conserver cette image de paysan sibérien parce que c'est sa marque de fabrique. Et donc, il a cette intelligence quasiment, je ne sais pas s'il faut dire de marketing ou de je ne sais quoi, à la fois de rentrer dans le circuit pétersbourgeois, mais en sachant que ce circuit est très très attentif à cette image sibérienne. Et donc, il joue là-dessus. Et puis par ailleurs, ce qu'il joue beaucoup, c'est qu'il reçoit énormément de cadeaux, y compris de la tsarine et de la fameuse Vyroubova dont je parlais tout à l'heure, qui lui offre par exemple des chemises en soie, qui est aussi une de ses marques de fabrique. Donc, il a des chemises en soie de couleur framboise ou de couleur bleue qui viennent des meilleures sources. Et puis, on lui offre également des bottes de qualité. Enfin, bref. Donc, et là aussi, c'est un élément pour lui, non seulement pour montrer qu'il est mieux, mais pour montrer, et il se répand pour dire qui est-ce qui lui a offert cela. C'est aussi une manière de montrer qu'il est très, très bien vu dans les meilleurs cercles de la famille impériale ou de Saint-Pétersbourg plus généralement.
Vous avez employé le terme d'agent marketing, agent de communication. Rasputin est son propre agent de communication ou bien rentre-t-il dans la catégorie de sphère complotiste? J'imagine que beaucoup de bruits ont dû Rasputin, agent de...
Voilà, notamment à partir de la guerre. Donc on fera de Rasputin un agent allemand, voilà. Moi, je n'y crois pas beaucoup. En tout état de cause, je n'ai pas trouvé d'éléments documentant de manière indubitable cette affaire-là. Alors, en revanche, c'est vrai que dans les sphères pétersbourgeoises, il y a un certain nombre de milieux qui comprennent très très bien l'intérêt de valoriser Rasputin et les liens qu'ils peuvent avoir. Vous savez qu'en Russie, notamment à Saint-Pétersbourg, les Juifs étaient interdits. Depuis donc les règles imposées par Catherine II et Alexandre Ier. En revanche, certains juifs étaient autorisés à Saint-Pétersbourg comme à Moscou en fonction de leur qualité professionnelle et de leur rapport à la société, etc. Et donc, on trouve un certain nombre de juifs. Mais il n'en reste pas moins que dans l'entourage de Rasputin, il y a beaucoup de juifs. Il a notamment un secrétaire qui s'appelle Aaron Simonovitch qui écrira des mémoires qui sont... très très douteuse, parce qu'elle donne l'impression que c'est lui qui a fait complètement Rasputin. Mais au-delà de cet exemple qui n'est pas complètement convaincant pour l'historien, on sait qu'il y a un certain nombre d'hommes d'affaires, de financiers, d'industriels qui effectivement ont établi des liens avec Rasputin parce qu'ils considéraient que c'était intéressant pour leurs affaires, de valoriser ce lien et de faire en sorte que tout le monde y trouve son intérêt. Donc, pour répondre à votre question, il y a des gens qui s'autorisent à donner quelques conseils à Rasputin, qui s'autorisent à l'inviter dans certains endroits, etc., etc. Dans quelle mesure ces gens-là influencent ou n'influencent pas le Sibérien, dès lors que le Sibérien ne l'écrit pas précisément? Le sibérien, lui, se répand dans les quelques soirées ou dans les éléments sur lesquels il a écrit. Lui parle surtout de l'impératrice. C'est ça qui l'intéresse pour montrer qu'il a un lien privilégié avec elle, et qu'ils prient ensemble, qu'ils lisent les Saintes Écritures ensemble, etc., etc. Voilà. Donc, il est, moi, encore une fois, moi, je trouve que c'est un personnage très intéressant. Au-delà de l'image caricaturale qu'on fait de lui, notamment dans le domaine sexuel, parce que je pense qu'il a très très bien compris beaucoup de choses et qu'il avait une espèce d'intuition sibérienne, paysanne, appelez-la comme vous voulez, qui fait qu'il a compris en quoi la société pétersbourgeoise était à la fois complexe, mais en même temps il pouvait l'utiliser à la fois pour faire passer un certain nombre de messages, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais aussi pour y trouver son intérêt, encore une fois un intérêt qui était un intérêt d'ego. Je cite un moment un témoignage d'un passager qui se retrouve avec lui dans le train, le fameux train sibérien, et très rapidement, Raspoutine met en avant les relations très très haut placées qu'il a à Saint-Pétersbourg. Donc à l'évidence, il a un ego assez développé, pour ne pas dire surdimensionné, et donc il est extrêmement fier de pouvoir être invité chez le tsar et la tsarine, de voir les enfants, et donc d'être considéré comme quelqu'un quasiment de la famille.
Alors, je rappelle aux auditeurs de Radio Courtoisie qu'aujourd'hui, au Mardi de la Mémoire, nous consacrons une seconde partie au livre passionnant d'Alexandre Jevakov, Nicolas II et Raspoutine, une histoire russe aux éditions Perrin. Restons, si vous le voulez bien, encore un petit instant sur ces prémices de ce qui sera la révolution de 1917 et sur la pensée politique, si elle existe, de Raspoutine, quand il prodigue ses conseils, qu'imagine-t-il comme évolution? Il n'imagine pas l'abolition
Non.
du tsarisme.
Non, pas du tout, non, non.
Quelles sont ses perspectives
Alors,
politiques?
c'est là où il est très malin, de mon point de vue, c'est qu'il trace des espèces de schémas qui sont suffisamment imprécis pour que chacun les interprète comme il le souhaite, mais en même temps, il lui donne à ces schémas une espèce d'enluminure, une espèce notamment de contexte religieux qui obligatoirement fait plaisir ou font plaisir au tsar et à la tsarine, qui encore une fois sont extrêmement croyants et accordent à la providence la valeur suprême. Et donc, il fait plaisir à ceux qui l'écoutent. Il fait plaisir parce qu'il tient un discours sur le thème, mais de toute façon, le peuple vous fait confiance, le peuple vous suivra, vous êtes, en parlant au tsar, vous avez été oint par le Seigneur, donc vous ne pouvez pas vous tromper, vous ne pouvez pas conduire la Russie ailleurs que dans la bonne direction, etc. Et donc, ce sont des éléments qui, en soi, il n'y a pas de quoi définir une politique générale avec ce genre de renseignements, mais ça rassure l'interlocuteur qui a l'impression qu'effectivement, bah, il a entendu une voix légitime parce que c'est la voix de la paysannerie. C'est une voix qui se cadre toujours par rapport au texte, au format religieux. Et donc, tout le monde est content, lui, parce qu'il n'a rien dit qui le mette en difficulté. Il laisse à chacun le soin d'interpréter ses propos. Et le tsar et la tsarine sont là. En revanche, chaque fois qu'il a l'occasion de parler un peu plus précisément avec un ministre, ou a fortiori avec le président du Conseil, notamment Stalypine, là les échanges sont beaucoup plus acrimonieux parce qu'effectivement, très vite, ses interlocuteurs politiques ou technocratiques lui disent, mais attendez, ce que vous êtes en train de dire, ça ne veut rien dire. Donc si vous voulez nous dire des choses précises, dites-les. Si vous n'avez rien à dire, sortez. Voilà. Et là, il se cabre sur le thème, mais vous n'avez pas à me parler sur ce ton parce que je suis dans les petits papiers du tsar et de la tsarine, parce que je suis un homme de Dieu, donc vous n'avez pas, vous, vil haut fonctionnaire ou vil ministre, à me parler sur ce ton-là.
Oui, parce que c'était la question que j'allais vous poser. Quelles sont les autres bouches qui se penchent à l'oreille de Nicolas II ? Vous avez cité Stolypine.
Voilà.
Est-ce qu'il y a d'autres voix autorisées que Nicolas II écoute ?
Alors, tout à l'heure, on avait commencé par la révolution de 1905. Là, le grand changement, c'est qu'à partir de 1905, apparaît dans le système institutionnel russe la Douma. La Douma, c'est donc une espèce d'assemblée nationale. Je dis une espèce de parce qu'elle a des pouvoirs qui ne sont pas du tout celles de notre Assemblée nationale, mais il n'en reste pas moins que c'est une nouveauté dans le régime monarchique russe, puisqu'il y a une ébauche de pouvoir législatif, et d'ailleurs certains parlent déjà de monarchie constitutionnelle. Et donc pour Nicolas II, qui a été élevé dans l'autocratie la plus classique, c'est une rupture. Il l'a accepté, mais encore une fois, il l'a accepté contraint et forcé. Et donc, à partir de là, le paysage politique est totalement différent. Il y a des partis politiques qui apparaissent dans cette Douma, des partis du centre, centre droit, centre gauche. De gauche, il y a les bolcheviks qui siègent, non pas à la première Douma, mais ensuite. Il y a également des partis de droite et d'extrême droite qui apparaissent. Voilà. Et donc, tout ceci crée un capharnaüm et des débats. Voilà. La presse à Saint-Pétersbourg, à Moscou et en province, apparaît, se développe et prend des libertés totalement différentes. Et puis, obligatoirement, sur la proposition de Witte, qui était ministre des Finances d'Alexandre III, puis de Nicolas II, est créé un poste de, je dis Premier ministre, l'appellation n'est pas celle de Premier ministre, mais je dis Premier ministre parce qu'antérieurement, ça n'existait pas. Chaque ministre dépendait personnellement du tsar, et donc il n'y avait pas un collège ministériel. Donc, pour la première fois, apparaît là aussi une sorte de collège ministériel, parce que ce Premier ministre n'est pas notre Premier ministre, au sens de la Constitution de la Ve République, mais il essaye de coordonner le travail des ministres. Et donc, obligatoirement, à partir de 1905, et surtout à partir de la nomination de Witte et puis de Stalypine, donc on vous avez deux personnalités politiques très différentes. Witte, c'est un ancien ingénieur ferroviaire qui est devenu un expert en finance, et qui effectivement développe beaucoup l'économie, l'industrie et les finances russes. Quant à Stalypine, c'est un gouverneur, donc c'est plutôt un haut fonctionnaire aujourd'hui. Pour utiliser une image française, on dirait c'est un préfet de haut niveau. Et donc lui, il est dans une logique beaucoup plus classique. Mais en même temps, c'est un haut fonctionnaire qui est très politique. Il comprend qu'il faut effectivement créer un rapport de force pour que la monarchie puisse avancer. Et donc, ces deux-là, en particulier, sont des interlocuteurs réguliers du tsar, mais le tsar les écoute dans la mesure où il veut les écouter. Et notamment, l'impératrice considère que ce ne sont que des gens de passage et que le moment où le tsar n'en veut plus, terminé, bonsoir, au revoir chez vous. Et d'ailleurs, de la manière assez caricaturale, lorsque Stalypine est assassiné et donc à Kiev, à l'opéra, donc il y a celui qui était son numéro 2, qui était ministre des Finances, Kakovtsev, lui succède à la présidence du Conseil. Kakovtsev raconte dans ses mémoires qu'il a un échange avec l'impératrice qui lui dit, bah écoutez, voilà, Dieu a rappelé Stalypine, parce que ça veut dire que le temps de Stalypine était terminé, donc voilà, c'est comme ça. Elle a déjà oublié Stalypine et elle est passée à autre chose. Donc, ce sont des gens qui sont dans le dialogue avec Nicolas II, mais c'est un dialogue qui est encore très, très, très loin du dialogue qu'on peut entendre aujourd'hui dans un régime entre le Premier ministre français et le président de la République française ou d'autres.
Vous aimez Radio Courtoisie, mais vous n'avez jamais, jamais donné, même pas 5 euros. Arrêtez de laisser payer les autres à votre place. Faites un don maintenant sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 Boulevard Murat, 75 016, Paris. Et vous verrez, vous vous sentirez mieux.
Chers auditeurs de Radio Courtoisie, merci d'être à l'écoute et d'être aujourd'hui avec nous au Mardi de la Mémoire, où j'ai le très grand plaisir de recevoir pour une seconde partie Alexandre Jevakov, auteur chez Perrin, d'un ouvrage passionnant, Nicolas II et Raspoutine, une histoire russe. Et nous essayons avec vous, cher Alexandre Jevakov, de décortiquer cette relation qualifiée de toxique, mais une relation humaine derrière deux personnages dont nous avions rappelé lors de notre première émission que, contrairement à ce qu'on peut croire souvent, ils avaient le même âge, à quelques mois d'écart.
Exactement, hein. Voilà.
C'est vraiment deux hommes qui abordent les grands... bouleversement de la société russe ayant à peu près la quarantaine, puisqu'ils vont mourir à peu près à 50 ans.
Voilà, Raspoutine était de 1169 et meurt en 16, et donc le tsar était de 68 et meurt, comme on sait, en 18.
Voilà, donc c'est vraiment deux contemporains, voilà. Et c'est vrai que on imagine Raspoutine toujours beaucoup plus âgé, comme un
vieillard. Oui, c'était ce que laissait entendre un certain nombre de biographes. Mais les gens qui s'intéressent à ce personnage de Raspoutine ont dû lire beaucoup de choses qui étaient davantage de l'imagination d'un petit romancier que d'un travail d'historien.
Alors, ça n'est pas votre cas, c'est un vrai travail d'historien. Et j'avoue avoir appris beaucoup de choses et avoir été très, très intéressé par votre ouvrage. La preuve, c'est que nous lui consacrons deux émissions. Alors, Alexandre Jevakov, à cette première partie de la semaine dernière, vous nous aviez, votre nom l'indique de toute façon, votre nom de famille, vous nous aviez indiqué que vos quatre grands-parents étaient russes blancs, puisque nous rentrons là dans ce qui va être malheureusement la fin des Romanov et la fin d'un régime comparable à ce qu'a pu être la Révolution française et la fin de notre ancien régime. Vous nous aviez indiqué que vos grands-parents ne parlaient pas de Raspoutine, mais comment parlaient-ils, comment évoquaient-ils, comment ont-ils compris ou pas compris l'arrivée de cette terrible période qui va de 1905 à 1917.
Alors, je vous le rappeliez à l'instant, donc mes quatre grands-parents étaient russes et mes deux grands-pères étaient officiers de la marine impériale. Dans ma famille maternelle et paternelle, aussi loin que je remonte dans les arbres généalogiques, quasiment tout le monde était officier. Soit de la marine, soit dans l'armée, et voilà. Et je dirais que dans la tradition militaire russe, mais je pense pas uniquement, je pense que c'est pas pour rien qu'on appelle l'armée française la Grande Muette, on servait. On servait le tsar, on servait la patrie, et je ne sais pas si on parlait beaucoup de politique. Donc ça, c'est un premier point, et donc... moi, je n'ai pas souvenir d'avoir retrouvé dans les papiers de famille ou dans les souvenirs de mes grands-pères, et notamment de mon grand-père maternel que j'ai mieux connu, puisqu'il habitait Paris alors que mon grand-père paternel était à Toulon, je n'ai pas souvenir de longues conversations ou de longues digressions sur la Révolution de 1905, sur ceci, sur cela, etc. Une manière encore plus précise, dans un certain nombre de familles de l'immigration, des familles qui d'ailleurs ont parfois abandonné le tsar en février 17 comme si de rien n'était, ces familles ont, dans l'immigration, avaient souvent le portrait de la famille impériale ou le tsar dans l'appartement. Très sincèrement, ce n'était pas le cas de mes grands-parents. Donc, ça ne veut pas dire qu'ils étaient... Je n'ai aucun droit de les conseiller comme non-adhérents au régime monarchique, mais je dis sincèrement qu'ils ne se sont pas redécouverts un allant monarchique en émigration, comme certains l'ont fait. En revanche, ils considéraient que la monarchie faisait partie du régime normal, naturel de la Russie et de l'Empire russe. Ils le servaient de génération en génération. Encore une fois, les seuls qui n'ont pas été officiers, j'ai un arrière-grand-père, un arrière-grand-oncle qui était sourd, donc qui est devenu fonctionnaire civil, et un autre arrière-grand-oncle qui a perdu un œil dans un accident de chasse, et donc qui a travaillé dans une administration des forêts. Voilà. Ce sont, encore une fois, sur X générations, remontant jusqu'au 17e, ce sont les deux seuls hommes qui n'étaient pas des officiers. Et même du côté féminin, quasiment tous les ascendants étaient également officiers. Donc, voilà. Donc c'est, je veux dire que c'était banal, c'était comme ça. Et d'ailleurs, Quand j'étais enfant, moi, je pensais faire l'école navale. Et j'ai une sœur qui a un an de moins que moi. Et quand on lui demandait, petite fille, que veux-tu faire? Que comptes-tu faire quand tu seras un peu plus âgée? Elle disait, elle répondait, je serai femme d'amiral. Voilà, donc nous étions formatés dans cette logique militaire qui, encore une fois, était et servait le tsar et servait l'empire, mais on n'en faisait pas, des déclarations autres, plus sentimentales ou que sais-je encore.
Et l'émigration s'est imposée pour des questions de survie, de sécurité, j'imagine.
Oui, parce que mes deux grands-pères ont participé à la guerre civile et que donc ils envisageaient mal de rester dans un régime et de bien leur en a pris, puisque mon grand-père maternel avait un demi-frère qui était né en 67, donc qui en 17 avait déjà 50 ans, qui avait été ingénieur militaire à Port-Arthur, donc pendant la guerre russo-japonaise, et qui a été liquidé en 37, au moment où Staline a organisé une liquidation très bien organisée, de région en région, de tous les représentants de l'ancien régime. Et la seule membre de la famille maternelle qui soit restée en Russie, c'était la dernière sœur, donc la sœur Benjamine de mon grand-père. Elle est restée parce que son père était décédé en 16, et donc elle voulait rester pour s'occuper de sa mère, et donc elle a épousé un officier de la marine qui a émigré et qui est revenu en URSS, et cet homme qui est revenu en URSS a également été liquidé en 37, et sa fille, qui est maintenant nonagénaire, que j'ai retrouvée dans les années 90, me raconter comment à l'école dans les années 30, elle était traitée d'ennemi du peuple, avec tout ce que cela veut dire.
Alors, écoutez, on sait bien, pour avoir reçu, consacré des émissions à cette émigration russe, combien, de toute façon, quitter son pays, c'est jamais de gaieté de cœur, et combien cette période d'abord de la Première Guerre mondiale a été terrible pour les Russes, mais combien elle a été aussi particulièrement terrible pour ses représentants de l'aristocratie ou de la noblesse. À l'époque, on va dire que c'était lié, hein,
oui,
la noblesse était l'aristocratie russe. Si vous le voulez bien également, Alexandre Jivakov, nous avions convenu de nous arrêter un peu sur des questions plus psychologiques, parce qu'il me semble, et à la lecture de votre livre, sans que ce soit Stefan Zweig, mais vous avez été obligé, l'historien, c'est ça, je trouve, qui fait toute la grandeur de l'historien de maintenant, c'est qu'il est capable à la fois d'être très sérieux, de ne s'en tenir qu'aux sources, mais aussi de savoir que les questions psychologiques sont éminemment prégnante dans les faits historiques, et donc de s'intéresser tout de même un peu à la psychologie de ces trois personnages que sont Nicolas II, Rasputin et la tsarine. Alors, dans les trois, quel est celui dont la part psychologique est la plus importante dans le déroulement de l'histoire?
Je veux dire, formellement, c'est Rasputin qui joue le facteur déclenchant. Mais ce facteur déclenchant se produit dans un univers, un couple, où l'un et l'autre, donc le tsar et la tsarine, ont leur part de responsabilité, de mon point de vue. Le tsar, parce que Nicolas est un homme très très bien élevé, très bien sous tout rapport, mais qui, à mon avis, encore une fois, n'a pas été préparé à l'exercice de cette responsabilité folle qui est de diriger l'Empire russe dans les dernières années du 19e et l'engager dans le 20e. Et d'ailleurs, on voit très très bien, sous tout un tas de choses, qu'il est très très à l'aise dans la vie familiale, dans la vie privée, mais qu'il a des difficultés à s'exprimer en public, qu'il n'aime pas le faire, et que la politique, au sens qu'il va devoir traiter à partir de 1905, est à la fois un univers qu'il ne connaît pas et un univers qui est pour lui presque malsain. La tsarine, c'est une personne qui est peut-être psychologiquement beaucoup plus intéressante, parce qu'elle vient d'une petite cour, la cour de Hesse-Darmstadt. Elle a été élevée par sa grand-mère Victoria. Elle est tombée amoureuse très jeune du futur Nicolas II. Elle a mis énormément de temps, on l'a déjà dit, mais c'est très important, à accepter de devenir orthodoxe. Et après, elle arrive dans cette cour très organisée, avec une belle-mère, là, donc la veuve d'Alexandre III, très présente, très à l'aise, alors que Alexandra, au contraire, n'est pas à l'aise, maîtrise mal la langue russe, ne se sent pas confortable, comme on dit dorénavant, avec l'environnement qui est le sien à Saint-Pétersbourg, et qui en plus a très, très tôt des problèmes de santé, cardiaques, des problèmes de circulation, tout un tas de choses. Et donc, ça fait un ensemble qui n'est pas le plus facile pour jouer le rôle qu'on attend d'une impératrice de toutes les Russies, enfin, de l'épouse de l'empereur de toutes les Russies. Ajoutez à cela le problème qu'elle met beaucoup de temps pour avoir un fils, puisqu'elle a d'abord 4 filles, les 4 grandes-duchesses, avant que Alexis, donc le Tsarevitch, ne vienne au monde, et qu'en plus, ce Tsarevitch a les problèmes de santé, l'hémophilie que l'on connaît. Donc, elle est dans un contexte psychologique qui n'est pas facile, et en même temps, elle a une énorme ambition et une énorme confiance en elle. Et donc, elle joue en quelque sorte le jeu que pourrait ou que devrait jouer son mari dans l'exercice de l'ambition, alors qu'elle n'en a pas les titres, qu'elle n'en a pas les compétences, et qu'elle n'en a pas l'équilibre psychologique. Et donc, Rasputin est comme un coq au milieu du village avec tout ça, puisqu'il peut à la fois jouer le discours du paysan, qui rassure le tsar, il peut jouer le discours de l'homme de Dieu, qui intéresse les deux, le couple, puisque les deux sont très très demandeurs de réflexions spirituelles et de réponses en tant que croyants et pratiquants. Et en même temps, il valorise en quelque sorte la tsarine, puisque par son biais et par le jeu d'Anna Virubov, qui est à la fois très très proche de la tsarine et très 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 proche de Rasputin, voilà, il fait passer tout un tas de messages, et donc il montre soit directement, soit indirectement à la tsarine que finalement elle est beaucoup mieux que l'image qu'on veut avoir d'elle à Saint-Pétersbourg ou ailleurs.
Alors Alexandre Jivakov, oui, parce que on parlait de psychologie, mais je m'étais amusée à relever des adjectifs qui sont employés, que vous citez, hein, oui, dans votre ouvrage. Le tsar est-il naïf, est-il aveugle? La tsarine est-elle névrosée? Alors malade, oui, on le sait, mère avant tout peut-être, envoûtée. Rasputin est-il un charlatan ou un guérisseur? Est-il fascinant ou dégoûtant? Est-il ivrogne ou sain? Voilà, c'est vraiment des questions, ça fait plus de 100 ans qu'on se les pose.
Oui, mais il faut se les poser. C'est-à-dire que je pense qu'il faut éviter d'avoir des idées toutes prêtes et quasiment des réponses avant de poser les questions. Et donc c'est vrai que j'ai essayé, alors peut-être d'aucuns critiqueraient cette démarche, mais j'ai essayé plutôt d'ouvrir des portes, comme on dit dans les services d'enquête, plutôt que d'être sûr de donner une réponse qui, de mon point de vue, n'aurait été que maladroite. D'abord parce que, dès lors qu'on rentre dans un domaine psychologique, personne ne peut avoir la prétention de tout comprendre, de tout savoir. Je l'ai déjà dit, je le répète, quand je lis des livres un tel auteur qui dit « dans la tête de tel personnage », je ne sais pas comment cet auteur a pu pénétrer dans la tête de tel personnage en question. Voilà. Donc, moi, je n'ai pas cette prétention-là, et j'essaie encore une fois plutôt d'ouvrir des portes et de poser des questions pour qu'ensuite, le lecteur, avec sa culture, avec son expérience de la vie, qu'elle soit professionnelle ou personnelle, avec tout un tas d'autres éléments, essaye de lui-même de se forger sa propre réponse. Voilà, c'est pour ça que tous les petits exemples que vous venez de citer sont pour moi une méthode d'inciter le lecteur à réfléchir après la lecture ou en même temps que la lecture pour essayer de progresser et éventuellement, d'ailleurs, c'est intéressant quand j'ai des retours de lecteurs qui me fassent part de la manière dont ils voient telle ou telle analyse que j'ai pu formuler ou telle esquisse ou telle hypothèse que j'ai pu également mettre dans mon livre.
Alors, il y a une autre question qui est celle de la sexualité. Est-ce que c'est une porte d'accès à la compréhension intéressante n'est pas le mot, pertinente, dans le cas de Rasputin? Vous vous interrogez même sur la question de l'homosexualité. Est-ce que ce sont des outils de compréhension pertinents dans le cadre de ce vers quoi nous allons enfin arriver, qui est son assassinat?
Alors, depuis Freud, donc, c'est ce qu'il en est de la sexualité, je crois. Voilà. Donc, je ne peux pas dire non. Après, on sait que à l'époque de Rasputin et puis après, on a voulu faire de Rasputin un ogre sexuel, que la nature aurait doté de capacités supranaturelles. J'ai même lu dans un livre consacré au personnage quelqu'un qui prétendait donner la longueur du sexe de l'intéressé. Donc voilà, donc on rentre dans un domaine où tout est possible et surtout beaucoup de bêtises. Bon, de ce que j'ai lu, il jouait beaucoup là-dessus. Il jouait beaucoup là-dessus, d'autant plus qu'il y avait cette réputation de l'appartenance à la secte des flagellants dont nous avons parlé la semaine dernière, et que par ailleurs, il y avait, sans faire du machisme de mauvais café du commerce, il y avait à Saint-Pétersbourg un climat qui n'était pas un climat de monial, qui était un climat où effectivement la sexualité faisait partie de la vie, et effectivement un certain nombre de femmes, jeunes ou pas jeunes, mariées ou pas mariées, effectivement considéraient qu'il y avait des choses comment dirais-je, qu'on pouvait regarder des choses dans le domaine de la sexualité. Voilà. Après, ce que je peux dire, et d'ailleurs je l'écris dans le livre, c'est que très vraisemblablement, Rasputin n'avait aucune surcapacité sexuelle, puisque à l'été 14, il fait l'objet d'un attentat de la part d'une femme, et que le médecin qui est envoyé par la cour le sculpte, et donne une appréciation médicale qui est même plutôt sur le thème, c'est un homme âgé, et physiquement et physiologiquement, il a les organes d'un homme âgé. Donc, voilà. Donc on n'est pas franchement chez Rocco Siffredi. Voilà. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième point, en revanche, il y a énormément de témoignages, soit de la police, soit de personnes, qui effectivement expliquent que Rasputin cherche à les draguer, cherche à les palper, à les toucher, etc., etc. Et je rapporte même une scène d'une jeune femme qui a été violée par Rasputin. Donc, à l'évidence, il a joué là-dessus. Autre chose, effectivement, est-ce qu'il a... Tout à l'heure, je parlais du lien avec Virubov. Bon, il y a un certain nombre de fausses rumeurs qui circulaient, comme quoi ils auraient été amants et maîtresses. Bon, là aussi, on peut le dire très clairement, Virubov a fait l'objet d'un certain nombre d'examens médicaux, y compris après la révolution de 17, qui ont montré qu'elle était vierge. Donc voilà, donc là-dessus, s'ils avaient des relations sexuelles, c'était des relations sexuelles plus, comment dirais-je, plus hétérodoxes que celles que l'on peut imaginer. Voilà. Donc tout ça pour dire que la sexualité a joué, indubitablement. Je pense qu'il y avait une offre et une demande. Voilà. Mais Rasputin n'était pas le géant sexuel qu'on a bien voulu. C'est effectivement un thème de roman ou un thème de film passionnant pour ceux qui veulent se lancer dans ce genre d'aventure. Mais ça me paraît prendre une certaine distance, voire une distance certaine, par rapport à la réalité.
Alors, nous arrivons à son assassinat. Là, je parlais d'homosexualité tout à l'heure parce que le personnage clé de l'assassinat, c'est Youssoupov, et qu'on a, on s'est demandé s'il n'y avait pas des relations finalement entre deux. Il nous reste 10 minutes. Quels sont les éléments importants, novateurs, essentiels que l'on peut aborder et raconter à nos auditeurs?
Alors, comme on dit dorénavant, je ne veux pas spoiler mon livre en espérant qu'il y ait quand même des gens qui seront intéressés à l'acheter. Ce que j'essaye de décrire dans le livre, c'est que selon toute vraisemblance, la version mise en avant par Youssoupov, c'est-à-dire il résiste, c'est un miracle, il résiste à l'empoisonnement, et puis Et puis, on le tue, c'est lui avec le député de droite extrême Poliskevitch, ne tient pas la route parce que il y a un certain nombre de sources récentes médicales qui montrent qui expliquent pourquoi il a résisté à l'empoisonnement, et puis qui montrent que la version qui était donnée par Youssoupov et ce député Pouchkevitch sur les tirs, sur le nombre de tirs, sur les distances concernant les tirs et sur le calibre des balles utilisées par Youssoupov et Pouchkevitch, ne correspondent pas à ce que l'on sait aujourd'hui. Je dis aujourd'hui, puisque je fais état dans mon livre d'examens post-mortem qui ont été faits il y a une dizaine d'années par des médecins russes. Alors vous allez me dire, Rasputin a assisté en 1916, comment fait-on des examens post-mortem en 2010? Alors, il y a naturellement un débat peut-être scientifique et technique, mais ces examens ont été faits à partir des photos nombreuses et précises prises par la police du cadavre de Rasputin. Et donc, un certain nombre de chercheurs, notamment un chercheur britannique, a demandé à des médecins russes spécialisés, donc des médecins légistes, d'interpréter ces photos pour savoir à quelle distance les tirs ont été effectués, de quelle manière les tirs ont été effectués, c'est-à-dire est-ce que Rasputin était debout ou par terre, est-ce que les tirs sont donc étaient horizontaux, verticaux, ascendants ou descendants, et ensuite également quels calibres ont été utilisés. Et ce sont ces éléments-là qui me conduisent à dire ce que j'ai dit sur la remise en cause de la version de Youssoupov. Ce qui veut, si on conduit ce raisonnement, ce qui veut dire que très vraisemblablement, en dehors des Russes qui étaient là, il est possible qu'il y ait eu un non-russe, et puisque le calibre qui n'est pas russe, c'est un calibre britannique, puisque c'est un calibre qui était uniquement utilisé par l'armée britannique. Alors, est-ce qu'un agent britannique était là, ou est-ce que nos amis britanniques, qui sont souvent très très intelligents, ont prêté l'arme britannique à un russe à toutes fins utiles? Voilà, ça c'est un sujet sur lequel je ne me prononce pas. Mais en tout état de cause, ma conclusion, c'est de dire que la version qui a fait la gloire de Youssoupov pendant des années et des années me semble devoir être remise en état, et qu'on doit se poser un certain nombre d'autres questions. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai également utilisé un nom qui est très très connu en France, qui est celui d'Alain Decaux. Alain Decaux, donc, dans les années 60, a publié un certain nombre de livres sur les grands mystères de l'histoire, et dans un de ses livres, il consacre un chapitre à l'assassinat de Rasputin. Et il cite un troisième personnage qui fait partie des comploteurs donc de l'assassinat, un dénommé Lazovert. Ce Lazovert est un personnage assez mystérieux. Il est supposé être un médecin polonais formé en France. Il est enterré au Père Lachaise. J'ai retrouvé, et je remercie le président de l'association des tombes de Père Lachaise, puisqu'il m'a confirmé que ce Lazovert était bien enterré au Père Lachaise. Et dans le livre d'Alain Decaux, ce Lazovert est cité pour donner des informations qu'on ne connaissait pas, laisse entendre que les services britanniques avant même 14 et l'ambassadeur britannique avant même 14 étaient décidés à se débarrasser de Rasputin dès lors que son personnage prenait trop d'importance et dès lors que ce personnage était susceptible de conduire l'Empire russe à changer d'alliance ou du moins à s'éloigner de l'accord avec Paris et avec Londres. Ça, c'est intéressant. C'est d'autant plus intéressant que le livre... Alors, on ne sait pas, Decaux ne dit pas à quel moment Lazovert a dit ce qu'il a dit. On sait quand est mort Lazovert, mais on ne sait pas à quel moment ce témoignage, et Decaux ne le rapporte pas. Ce qui est encore plus intéressant, c'est que le livre de Decaux, donc paru dans les années 60 à Paris, a été traduit à Moscou en 2005. En bon inspecteur des finances, j'ai utilisé la source française et la source russe. Et dans la source russe, extraordinaire découverte, je m'aperçois que le traducteur russe de Decaux fait de l'Azov verte un agent britannique, et dont il donne le nom, qui est venu faire une mission avant 14 à Saint-Pétersbourg, et qui ensuite a une carrière que connaissent bien ceux qui s'intéressent au service de renseignement britannique, puisque c'est l'un des fondateurs du service britannique de contre-espionnage. Et donc là, je me demande à quel titre le traducteur russe a fait cette confusion.
Oui.
C'est permis, voilà. Est-ce que c'est pour attaquer les Britanniques dans le contexte des nouvelles relations entre Moscou, l'Alliance Atlantique, patati et patate, ou est-ce que, je ne sais pas, il a abusé de la vodka au moment où il faisait la traduction. Quoi qu'il en soit, c'est quelque chose que je trouve extraordinaire, voilà, que je cite dans mon livre. Et donc tout ça me conforte pour dire que nos amis britanniques, d'une manière ou d'une autre, sont vraisemblablement partie prenante à l'assassinat de Rasputin. Alors, ce qui conforte également cette information, c'est que Youssouf avait été faire des études à Oxford, études à sa manière, hein, donc il n'a pas une thèse de doctorat en paléontologie, machin truc. Il fréquentait davantage les bals et les soirées bien arrosées qu'autre chose, et il avait fait quand même connaissance de quelqu'un qu'on retrouve à l'ambassade de Saint-Pétersbourg, et qui d'ailleurs est très très proche, et qui vient le voir au lendemain de l'assassinat de Rasputin. Donc voilà, donc ce sont des éléments qui font que j'essaierai d'approfondir cette affaire, mais je pense que du côté de la perfide Albion, il y a de quoi regarder deux ou trois choses.
Et oui, ils sont toujours là, les Anglais.
Et
toujours
voilà,
ce
qui fait leur grande qualité.
Et oui, et puis il faut quand même se rappeler que la tsarine était anglaise. Hein.
Absolument, absolument.
Donc c'était quand même la petite fille de la reine,
voilà,
Victoria.
Et elle parlait anglais avec son mari.
Et ses salons étaient couverts de chines.
Oui.
Et donc,
voilà.
Bon, donc pourquoi pas. Hein.
Pourquoi pas, voilà.
Merci beaucoup, Alexandre Jevakov. Un auditeur nous dit « Rasputin a des descendants vivants en France ».
Oui, je le confirme.
Ah bon,
je le confirme, non, absolument.
Merci à
vous, monsieur, mais je le confirme, effectivement.
Un grand merci, Alexandre Jevakov. Nous avons passé deux heures passionnantes, la semaine dernière et cette semaine, autour de votre ouvrage « Nicolas II et Rasputin, une histoire russe aux éditions Perrin ». Voilà, une relation et des personnages qui n'ont pas encore fini de faire parler d'eux. Et merci à vous de
merci
nous
à vous,
avoir
merci aux auditeurs de Radio Courtoisie.
Dans une plus grande connaissance de cette relation. Chers auditeurs, à mardi prochain. Au revoir.
Au revoir.
Venez d'entendre Les Mardis de la Mémoire créés par Pierre Chaunieu et dirigés par Anne Collin, diffusé en direct sur Radio Courtoisie mardi 17 février 2026 de 10h à 11h et réalisé par Benoît. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de cette émission. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.